une partie, une grande partie de la souffrance humaine sur cette planète vient du fait que des gens vivent loin de Dieu. Alors qu'on veut blâmer Dieu pour la souffrance des hommes, l'homme a volontairement choisi de s'éloigner de Dieu, et être loin de Dieu, c'est souffrir. Et c'est le thème de ce chant qui s'intitule « Loin de toi ». Un enfant qui est parti, sans regret, sans un merci, il aurait fallu si peu de choses, mais voilà, tout est fini. De l'amour, de la pitié, est-ce encore trop demandé? Je sais pour personne ce n'est facile, tout nous paraît si fragile. Loin de toi, Seigneur, non, je ne partirai. Où aller, Seigneur, ton amour m'a sauvé. Plus solide qu'une encre d'un bateau, et plus précieux qu'un joyau. Quand pour avoir de la paix, rien qu'un peu de liberté, il faut que la terre soive le sang coulé, et pourrons-nous y vivre après? Où reste-t-il un espoir de trouver, de recevoir? Quand partout s'infiltre la terreur, l'appréhension d'un malheur. Loin de toi, Seigneur, non, je ne partirai. Où aller, Seigneur, ton amour m'a sauvé. Plus solide qu'une encre d'un bateau, et plus précieux qu'un joyau. Loin de toi, Seigneur, non, je ne partirai. Où aller, Seigneur, ton amour m'a sauvé. Plus solide qu'une encre d'un bateau, et plus précieux qu'un joyau. Pensons à ce sang qui a coulé ces derniers jours en Espagne. On en parle depuis toute la journée et c'est bien. Il faut en parler. Et on est démunis face à des actes de ce genre. Et beaucoup de ceux qui veulent la paix font des violences dans leur cœur contre Dieu. On a parlé avec des gens dans la rue cet après-midi. Beaucoup trouvent cette violence horrible. Mais quand on leur donne un prospectus, une invitation à entendre la réponse à cette question ce soir, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de ça. Et beaucoup d'hommes ne savent pas qu'en écartant Dieu de leur existence, c'est un acte avec violence inouïe. Après tout, qu'est-ce que Dieu leur a fait pour mériter un pareil traitement? Ce soir, je voudrais vous parler des larmes de Dieu. Hier soir, on a vu plusieurs raisons, plusieurs causes à la souffrance sur la terre. Et comment un Dieu tout-puissant et plein de bonté peut-il permettre que les gens souffrent? On a vu essentiellement que l'homme a un libre arbitre. Dieu a créé l'homme avec la possibilité de choisir. Et donc, quand l'homme fait un mauvais choix, Dieu s'interdit de changer les règles du jeu et de dire, non, on va effacer cette scène, on fait un nouveau take, on refait ça, maintenant, tâche moyen de choisir la bonne option. Dieu ne peut pas nous faire recommencer jusqu'à ce qu'on choisisse comme il veut. Mais nous sommes obligés de porter, supporter les conséquences de nos choix. Mais beaucoup de gens pensent que le Dieu de la Bible, s'il y a un Dieu, est un être lointain, assez indifférent et assez froid. Certains voient en Dieu un juge. Écoutez ce verset du prophète Jérémie. Voilà ce que Dieu dit, et on voit dans le cœur de Dieu. Dieu dit, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » On a ce peuple de Dieu historique dans l'Ancien Testament, ce peuple d'Israël, avec lequel Dieu s'est lié par des alliances, qui a eu un rôle à jouer. Dieu lui a donné un rôle à jouer vis-à-vis des autres peuples. Non seulement que ce peuple d'Israël a refusé de jouer ce rôle de témoin, mais ce peuple a adopté de faux dieux et est devenu idolâtre. Et Dieu a dû punir ce peuple selon son avertissement qu'il leur avait donné au début, mais il a fait en pleurant lui-même. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu voit la souffrance sur cette terre. Il pleure aussi, mais il pleure à cause de notre souffrance. Il pleure de notre orgueil, parce que c'est notre orgueil qui est la cause de la plupart des souffrances sur cette terre. Et on va voir à plusieurs reprises comment Dieu a eu de graves et d'immenses tristesses, les larmes de Dieu. En Ézéchiel 28, je vais lire plusieurs textes ce soir. En Ézéchiel 28, verset 12 à 15, nous lisons un récit prophétique sur le prince, le roi de Tyr, une grande ville à l'époque. Mais cette prophétie ne peut pas s'appliquer uniquement au roi de Tyr. Il s'applique à quelqu'un de beaucoup plus grand que ce roi. Verset 12, le fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et on voit bien qu'il s'agit de quelqu'un de plus grand que le roi de Tyr. Nous lisons verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. En effet, il s'agit de Lucifer. Cet ange puissant, ce chérubin protecteur, Lucifer. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Dieu donc exprime son immense tristesse d'avoir créé un ange merveilleux, un ange dont la création est accompagnée de musique céleste, un ange qui vit au milieu de richesses inouïes, qui est un chérubin protecteur de la présence de Dieu, chez lequel s'est trouvée de l'iniquité, la rébellion contre son Créateur. Et nous voyons la cause de cette rébellion en Ésaïe 14. Le prophète Ésaïe, 14e chapitre, nous donne l'aperçu de ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. D'ailleurs, le mot Lucifer veut dire fils de l'aurore et vient de ce texte. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà la prétention de Lucifer. Il a dit par orgueil, je vais être semblable à celui qui m'a créé. Je vais moi-même devenir Dieu. Et à travers cette première mutinerie, parmi les anges du ciel, qui connaissaient l'Éternel, qui le voyaient, qui l'adoraient, qui le servaient, qui jouissaient de sa présence, qui jouissaient de 1000 privilèges, de 1000 faveurs, eh bien, ça ne suffisait pas. Il fallait essayer d'être semblable à Dieu, éventuellement, évidemment, le remplacer. Et mes amis, l'homme commet la même erreur, commet la même mutinerie aujourd'hui. L'homme se prend pour Dieu. Dans la mesure où l'homme dit, je vis pour moi-même et pour ceux qui m'intéressent, je suis mon propre Dieu. Mes amis, les larmes de Dieu. Ce Satan, le mot Satan veut dire accusateur, le mot Lucifer veut dire fils de l'aurore. Il est devenu Satan, l'adversaire, l'ennemi juré de Dieu. Et où est-ce qu'il veut se venger? Où est-ce qu'il veut montrer sa haine envers son Créateur? Il veut le faire sur le champ de bataille constitué par l'humanité. Mes amis, l'humanité, la planète Terre, est la scène d'une immense bataille où Satan fait tout en son pouvoir pour s'opposer au plan de Dieu. Et Dieu permet. Parce que, attention, là encore, Dieu a créé Satan extrêmement puissant. En tant que Lucifer, il avait une énorme puissance et une grande gloire. Et une grande beauté. C'était un ange absolument merveilleux. Eh bien, il conserve ses caractéristiques. Il a perdu la caractéristique de l'innocence, de la justice. Mais il conserve cette puissance. Il conserve cette séduction. Et il s'en sert aujourd'hui auprès des hommes. La Bible dit que les émissaires de Satan se déguisent en anges de lumière, en séducteurs, pour amener les gens vers leur perte. Mais Dieu finira par vaincre Satan et Dieu permet même, à travers les actes de Satan, que son plan avance. La Bible dit que Dieu finira par juger Satan définitivement et le diable qui séduisait les hommes fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Seuls les parents qui ont vu naître leurs enfants et qui les ont élevés avec tendresse, avec amour, avec sollicitude, et qui ont vu ces enfants leur tourner le dos et les traiter comme des ennemis et les traiter de tous les noms. J'ai un ami en ce moment, il souffre atrocement, il a deux filles qui ont entre 20 et 30 ans, et une de ses filles, depuis quelques mois, le traite comme le dernier des imbéciles, comme le plus grand criminel de la terre. Et pendant 25 ans, c'était le grand amour, c'était le respect. Et il n'a jamais, jamais quelqu'un ne s'est adressé à cet homme avec les termes que sa propre fille a employés, sans jamais expliquer pourquoi elle avait changé d'attitude. Seuls les gens qui vivent des douleurs semblables peuvent comprendre le cœur de Dieu qui fut brisé par cette rébellion sans aucune cause de Lucifer et d'un tiers des anges. À une autre époque qui a brisé le cœur de Dieu, nous le trouvons au début du récit biblique, dans le livre de la Genèse, les trois premiers chapitres. Et si on essaie de se placer à se mettre, on ne peut pas dire dans la peau de Dieu, puisque Dieu n'a pas de peau, mais à la place de Dieu, on peut essayer d'imaginer la tristesse et le cœur brisé de Dieu quand en Genèse chapitre 1, verset 26, sixième jour de la première semaine de la création, Dieu couronne la création de l'univers, de la planète, des animaux, des plantes, tout le décor est là, mais il manque le personnage central. Il manque la vedette de la pièce. C'est l'homme. Et au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme Mais pas comme ça, comme des poissons, comme des quadrupèdes. Faisons l'homme à notre image. Parce que Dieu est une unité plurielle. Il y a un seul Dieu, mais il y a une pluralité de personnes. Ça, nous ne pouvons pas très bien le comprendre. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais si on regarde bien, l'homme est un être absolument unique, extraordinaire. C'est pour ça qu'on place tant d'importance sur la vie humaine. Et j'en profiterai au passage de parler contre l'avortement. Parce que dès qu'il y a conception, il y a vie humaine. Que Dieu permet. Et de mettre fin à cette vie humaine, c'est un meurtre. Au même titre que les attentats de ces dernières heures, etc. Mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et en regardant l'être humain, ce qui est extraordinaire, il est à la ressemblance de Dieu. L'homme a trois parties. Une partie visible, appelons ça l'enveloppe, le corps. La seule partie visible, c'est ça. Mais à l'intérieur de ce corps, il est évident qu'il y a une âme, il y a une personnalité. Au sein de chaque être humain, il y a de l'intellect, la capacité de réfléchir. Il y a les émotions, toute la gamme des émotions humaines, et elle est très riche, peuvent être ressenties par tous les êtres humains à chaque instant. Et il y a la volonté, la capacité de faire des choix. Après avoir compris, après avoir ressenti, on fait des choix. C'est quelque chose d'unique à l'être humain. Et c'est ce en quoi il ressemble à Dieu. C'est la caractéristique de Dieu. Intellect, émotion et volonté. Âme, corps, esprit. L'esprit, la troisième partie de l'homme, c'est sa capacité de connaître Dieu. D'avoir un contact avec Dieu. La Bible dit, avant de connaître Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, notre esprit est mort. C'est comme une prise téléphonique qui n'est pas alimentée. Elle est là, mais elle est inopérante. Mais quand on reçoit Christ, la prise marche. On peut avoir un contact avec Dieu par l'Esprit Saint. Trois parties comme Dieu et trois personnes en un seul. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Magnifique. Un chef-d'œuvre. L'homme et la femme, assortis à l'image de Dieu. Belle œuvre, pas uniquement au niveau corporel, je pense qu'Adam et Ève auraient pu être monsieur et madame univers, hein? C'était de belles personnes, mais plus que cela, c'était des gens qui avaient une dignité, une valeur infinie, parce qu'en eux il y avait le souffle divin, en vous il y a le souffle divin, vous avez une valeur absolument infinie. Eh bien, l'homme était créé pour jouir de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, de la plénitude de Dieu, de vivre à ses côtés, d'être en osmose, d'être en marche avec lui, de l'accompagner, d'être son ami. Alors, bien sûr, Satan ne voulait pas que ça se passe ainsi, il voulait soustraire à Dieu l'humanité qu'il venait de créer. Alors, il est venu dans le jardin d'Éden, et vous connaissez l'histoire de la chute. D'ailleurs, nous croyons que c'est un récit absolument historique. Nous ne croyons pas que ce soit allégorique. C'était un vrai fruit sur un vrai arbre. Ce n'est pas le fruit qui était empoisonné. Ce n'est pas l'arbre qui était maudit. C'était la question de l'obéissance. Dieu avait dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Ce n'est pas que l'arbre était mauvais à regarder, ni mauvais à manger. Peut-être l'arbre n'avait rien de particulier en soi. C'est le fait de désobéir à Dieu. Et vous dites, mais alors, si Dieu voulait que l'homme reste avec lui, il n'avait pas à mettre cet arbre dans le jardin et faire une interdiction. Et mes amis, il fallait. Et c'est là où on se prépare à de grandes souffrances. Quand Dieu crée l'homme à son image, il est obligé de lui donner la capacité de choix. Si l'homme n'a pas la capacité de choisir, il est donc programmé. Il marche uniquement avec des instincts. Ce n'est donc pas un être humain. Il n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu a la capacité de faire des choix. Il a donné à l'homme la même capacité, celle de faire des choix. Et pour que l'homme exerce ce libre arbitre, il fallait qu'il exerce vis-à-vis de Dieu. Il fallait que l'homme puisse choisir d'obéir ou de désobéir à Dieu. Sinon, il n'est pas tout à fait humain. On appelle ça en anglais fair play. Hein? Dieu est très fair play. Je vous crée avec la capacité de faire des choix. Je dois obligatoirement vous mettre devant des choix. L'homme et la femme auraient pu choisir d'obéir à Dieu, tout simplement. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. D'où l'origine de toute la souffrance que subit l'humanité aujourd'hui. Et comment Satan s'est-il pris pour séduire ce couple? Eh bien, premièrement, il met en doute, verset 1er du chapitre 3, le serpent, donc représentant le diable, dit « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Alors, quelle finesse! Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger de... vous ne pouvez manger aucun fruit du jardin? Mais non, il n'a pas dit ça. Et Ève le redresse. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on ne devait pas manger dans certains arbres. Les autres, oui, mais pas celui-là. Et elle a même ajouté. Elle a dit, il ne faut même pas toucher à l'arbre. Ça, Dieu n'avait pas dit. Imaginez, vous effleurez l'écorce de cet arbre, dans la nuit, vous êtes mort. Non, mais Dieu n'est pas... Hein? Ce n'était pas une question d'effleurer un arbre, c'est une question de prendre une décision, de prendre un fruit et de le manger. C'est ça qui constituait une désobéissance. Donc, Satan remet en doute la parole de Dieu, il cite mal la parole de Dieu, Ève ajoute à la parole de Dieu. Maintenant, c'est tellement brouillé que Satan passe à la phase suivante et nie. Il contredit la parole de Dieu. Et il dit, verset 4, le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez point. » Dieu avait dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » C'est clair. Satan se permet de dire, mais vous ne mourrez point. Mais il va plus loin. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est diaboliquement vrai. Parce que Adam et Ève vont effectivement connaître la différence entre le bien et le mal quand ils auront mangé de ce fruit défendu. Mais, ce que Satan ne leur a pas dit, c'est qu'ils auront choisi le mal et ils vont vivre l'expérience du mal. Et ils vont savoir que ce qu'ils font est mal. Et ils ne vont connaître le bien que par c'est le choix qu'on n'a pas fait. Le bien, ils vont savoir, le bien, c'est le choix qu'on n'a pas fait. C'est terrible de connaître le bien comme ça. Et le mal, eh bien, on l'expérimente tous les jours. On sait ce que c'est le mal parce qu'on vit le mal. Mais plus encore, très insidieux, le diable, il fait comprendre à Adam et à vous, comprenez, Dieu va vous exploiter un petit peu. Il ne veut pas que vous mangiez de cet arbre, parce que si vous en mangez, vous serez comme lui. Alors il n'apprécie pas que les gens lui ressemblent. Il veut vous garder sous sa coupe, il veut un peu vous dominer, il veut un peu vous asservir. Et alors s'il veut vous priver de certaines connaissances, pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Et donc il fait comprendre que Dieu veut les exploiter, veut se servir d'eux, et veut les garder dans une espèce d'esclavage. Il fait un procès d'intention à l'Éternel. Et alors, évidemment, pour l'être humain qui est Ève, il dit, oh, je peux être comme Dieu. Écoutez, Dieu n'est même pas un missile. Si Dieu n'avait pas voulu qu'il puisse devenir comme lui, il n'aurait pas jamais mis le jet, il aurait regardé comme des robots. Il aurait pu le faire, il aurait pu les programmer avec un pavé numérique dans le dos et les faire promener dans le jardin pendant 1500 ans, s'il voulait. C'est possible. Et donc, prêter des intentions maléfiques à l'Éternel alors qu'il ne leur voulait que du bien, c'est proprement parler diabolique. Tout à fait dans le genre de Satan. Et Ève est séduite. Elle est trompée. Et elle mange ce fruit. Et Adam, comprenant l'enjeu, il prend la décision, les yeux grands ouverts, de manger de ce fruit et désobéit volontairement. Peut-être pour ne pas perdre Ève, nous ne savons pas, mais en tout cas, il le fait volontairement et le premier couple est plongé dans le péché. Vous parlez des larmes de Dieu. L'émerveillement de souffler dans cet homme étendu que Dieu avait fait de ses propres mains dans la poussière de la terre, de souffler dans ses narines et de voir les yeux du premier homme qui s'ouvre et qui regarde la face de Dieu. Et qui venait de recevoir le souffle divin, et qui commence à respirer pour la première fois. Dieu avait créé un homme, et de voir quelque temps plus tard, cet homme tourner le dos à Dieu, comme si Dieu avait été malhonnête de le créer. Les larmes de Dieu. Mes amis, nous parlons toujours de nous-mêmes. Oui, l'homme souffre, oui, les gens souffrent, oui, l'humanité souffre, mais qu'est-ce que fait Dieu? Il est indifférent, parce que c'est ce que l'on fait comprendre. Dieu laisse les hommes souffrir, il doit être indifférent. Ce soir, j'aimerais vous montrer que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des hommes. Dieu souffre. Dieu souffre plus que nous. Ça devrait nous bouleverser. Dieu souffre plus que nous parce qu'il a plus d'amour que nous. Son amour, donc, est plus bafoué que le nôtre. Et Dieu n'est nullement égoïste. Il ne fait rien par égoïsme. Nous, on fait beaucoup de choses par égoïsme. Nous, que d'autres nous fassent souffrir, c'est somme toute assez normal, nous faisons souffrir autrui. Mais Dieu n'a jamais fait souffrir personne. Et pourtant, les gens le font souffrir. Donc, si nous sommes dans la souffrance, à quelque plan que ce soit, Dieu sait personnellement ce qu'est cette souffrance parce qu'il y passe. Il passe par toutes ces souffrances par lesquelles nous passons. La chute de l'homme. Dieu va pourvoir un sacrifice. L'homme a choisi le mal. L'homme est enfermé dans son mal. Mais Dieu dit, vous pouvez renverser votre choix. Mais ça ne se fera pas collectivement. Ça se fera individuellement. L'individu, l'être humain qui veut renverser le choix d'Adam. L'individu qui dit, mes premiers parents ont choisi, Seigneur, de se déclarer indépendant de toi. Mais moi, Seigneur, je veux renverser la vapeur et je veux dépendre de toi. Les hommes t'ont accusé. Moi, je veux te faire confiance. Les hommes se sont révoltés contre toi. Moi, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Les hommes, Seigneur, ne veulent pas que tu les guides. Moi, je veux ta direction dans ma vie. Pour ces gens-là, Dieu a pourvu un sacrifice pour qu'ils puissent pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Mais il faut passer par Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il faut croire que Jésus-Christ est Dieu et Sauveur. Il n'y a aucun autre sang que le sien qui peut nous sauver. Si nous péchons, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous refusez le sacrifice du Christ, il n'y en a pas d'autre. C'est Christ ou rien. C'est le sang de Jésus ou rien. Soyez les bienvenus. Et donc, l'homme a chuté, mais Dieu est prêt à le relever. Et si ce soir, nous sommes nombreux à avoir été relevés, relevé par la puissance de Dieu. Et c'est merveilleux. Je voudrais maintenant qu'on regarde Genèse chapitre 6. Une autre époque après cette chute de l'homme dans le jardin d'Éden, 15 siècles vont passer. 1500 ans. Ça semble long, mais ça ne l'est pas, puisque Adam et Ève et eux-mêmes vivaient près de 900 ans. Donc, 600 ans après la mort d'Adam. Regarde dans quel état se trouve la civilisation humaine. En Genèse chapitre 6, nous lisons dans le verset 5, Dieu maintenant qui regarde l'humanité sur la planète Terre, au bout de 1500 ans d'histoire, que voit-il? Des hommes et des femmes vivant en harmonie dans un jardin de paradis terrestre, non? Que trouve-t-il? Trouve à peu près la même chose qu'il trouve aujourd'hui. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu pèse ses mots. Quand l'ensemble des hommes et des femmes de la planète ne pensent qu'à faire le mal, ils ne pensent qu'à ça, ils ne vivent que pour faire du mal. C'est inimaginable. Des gens créés à l'image de Dieu qui soient tombés si bas. Verset 6, l'Éternel se repentit. Il a regretté. Il a changé de point de vue. Il est revenu en arrière. Il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Son cœur se brise. Pour avoir une idée, imaginez que dans la grâce de Dieu, vous n'allez pas lire, mais imaginez dans la grâce de Dieu, Dieu vous donne 10 enfants. 10 beaux enfants. 10 enfants doués, intelligents. Et alors vos voisins sont vraiment jaloux parce que des enfants comme ça, on n'en voit pas. De magnifiques enfants, brillants à l'école, beaux comme tout. Merveilleux, vous dites, je suis comblé. Imaginez que dès que ces enfants atteignent la majorité, mais alors à leurs 18 ans, les uns après les autres, ils changent complètement de caractère et deviennent tous des criminels endurcis, des meurtriers, des violeurs, etc. Et vous essayez de les appeler au téléphone quelquefois, vous ne recevez qu'insultes, paroles grossières, ces enfants vous traitent comme si vous étiez leurs pires ennemis et vous avez fait tout votre possible pour les aimer, pour les éduquer, vous avez pourvu à tous leurs besoins, vous avez pourvu à leur éducation et aujourd'hui, la vie moderne a ses inconvénients, hein? Bon. Apparemment, la personne a décidé d'appeler plus tard. Eh bien, imaginez la peine que l'on pourrait avoir. On espère même peut-être que l'un des 10 va revenir. Non, non, non. Tous pensent uniquement au mal et ne pensent jamais au bien et vous traitent comme leur pire ennemi. Est-ce que ça ne donnerait pas un cœur brisé? C'est ce que Dieu a vécu avant ce déluge. Et il dit, il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Je regrette d'avoir fait ces gens. Et je vais devoir les détruire. Et il a fait avec un déluge. Il a trouvé sur la terre une famille qui était attachée à lui. Alors, il a sauvé cette famille et par elle, il a recommencé l'humanité. Nous sommes tous des enfants d'Adam et d'Ève, mais nous sommes aussi tous des enfants de Noé et sa femme. Parce que ça a recommencé avec une famille. La corruption du genre humain. Mais un homme et sa famille s'est identifié à Dieu. Et aujourd'hui encore, ce ne sont pas des foules qui viennent à Dieu. Ce serait magnifique, hein? Ce serait magnifique si en descendant dans les rues de Perpignan, en disant, nous vous invitons à une conférence ce soir sur la question que tout le monde se pose. S'il y a un Dieu d'amour, comment se fait-il qu'il y ait souffrance dans le monde? Comment Dieu peut-il permettre la souffrance dans le monde? Et ce serait merveilleux si Notre salle devenait très, très vite trop petite. À 3-4 heures de l'après-midi, c'était bondé. On mettait des haut-parleurs et toute la rue était remplie de gens. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est cette question qui sera traitée. Et qu'on termine dans le stade de Perpignan. Avec des dizaines de milliers de gens qui viennent de partout. On veut connaître Dieu. Ça n'a jamais été le cas, mes amis. Mais ici et là, il y a des individus qui disent « Moi, je veux. » Et Noé a dit « Moi, je veux m'identifier à Dieu. » Écoutez ce que Dieu dit à son sujet. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, le déluge, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par elle, par cette foi qu'il a eue en Dieu, il a condamné le monde et devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a créé un bateau qui était la taille d'un paquebot moderne, 300 mètres de long, 75 mètres de large, énorme, 120 ans de construction. Il a fait cela parce qu'il croyait Dieu. On peut sortir du rang. On peut quitter la masse sur le chemin de la perdition. On peut, chacun d'entre vous, vous pouvez, parce que vous en avez la possibilité, vous pouvez vous attacher à Dieu et réjouir le cœur de Dieu. Et mes amis, l'humanité ne réjouit pas Dieu, ça on peut être sûr. Il pleure, les larmes de Dieu. Nous allons aborder un autre sujet, c'est l'idolâtrie d'Israël. Osée chapitre 2. Alors ça touche particulièrement. Dieu emploie en métaphore parlant, que l'on voit d'ailleurs de plus en plus dans la société d'aujourd'hui, c'est l'adultère. Si on vous vole quelque chose, on vole votre voiture, vous n'êtes pas content. Après tout, ce n'est qu'une voiture. Mais si vous prenez comme conjoint un homme et une femme que vous aimez tendrement, avec lequel vous pouvez vivre votre vie, vous aspirez à mûrir et à vieillir ensemble, et au soir de votre vie, encore tenant la main et tremblotant, marcher dans les rues de Perpignan en disant « Ça fait 40 ans que nous sommes mariés, ça n'a pas été sans difficulté, mais notre amour a tenu !» Et c'est ce à quoi vous aspirez. Et vous êtes fidèle. Et vous travaillez à aimer votre conjoint. Et puis un jour, vous apprenez que votre conjoint a trouvé quelqu'un d'autre. Et a mis fin. Alors là, ça fait souffrir. Parce que votre amour est bafoué. Détruit. C'est l'acte qui fait le plus souffrir. Si vous parlez avec des veufs et des veuves, leur conjoint disparu, parti, souvent ils pleureront d'amour, de souvenir. Mais ce ne sont pas des larmes d'amertume. Ce sont des larmes d'admiration, d'attendrissement, mais des larmes de frustration, de colère, de tristesse, d'un cœur brisé, quand votre conjoint s'en va. Je dis cela parce que Dieu a aussi une relation qu'il qualifie de relation maritale. Il a pris un peuple pour lui-même et il a considéré ce peuple un peu comme son épouse. Il a dit, on va faire une alliance ensemble. Je serai ton Dieu, peuple, et vous serez mon peuple. Je vous protégerai, je vous guiderai, je vous défendrai contre vos ennemis. Je pourvoirai à vos besoins matériels. Je vous donnerai un pays. Je vous donnerai des richesses. Vous serez un peuple considéré. Vous serez à la tête de tous les peuples de la terre. Et vous serez mes témoins. Et on va vivre devant ce monde en bel amour. Et les peuples vont être émerveillés en voyant comment un peuple peut vivre près d'un Dieu qui existe réellement. Et par notre vie ensemble, les peuples vont être attirés vers vous et vers votre Dieu. C'est un beau plan. C'est un beau projet. C'est une belle alliance d'amour. Et Dieu lui est resté fidèle à ses engagements. Et le peuple d'Israël a sombré dans l'idolâtrie. Alors, pour vous donner une petite idée, comment ça peut être vraiment difficile à vivre. Imaginez un couple dont l'un des conjoints tombe amoureux. Disons que c'est un homme. Il tombe amoureux, non pas d'une autre femme, mais d'un mannequin féminin qu'il trouve dans la vitrine d'un magasin. Vous imaginez ça? Je dis n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. Il passe devant les galeries Lafayette et il voit un magnifique mannequin en plastique. Ils ont mis une belle perruque et une jolie robe. Il dit, oh, j'en suis baba. Il va voir s'il peut acheter ce mannequin. Bon, il est prêt à payer le prix. On l'a vivant. Il l'amène à la maison. Il le met dans le coin de la chambre et il dit à sa femme, je suis amoureuse d'elle. C'est vrai, elle a la plastique qu'il faut, hein. Elle est magnifique. Elle va dire, mais t'es un peu pas touché la tête, là, un peu. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a dit, vous m'avez échangé contre des idoles qui ne parlent pas. Il a un peu ironisé, il a dit, vous prenez un grand morceau de bois, vous le sculptez, hein, et vous mettez ça devant vous. Vous venez de sculpter votre morceau de bois, vous avez fait une idole, vous la mettez devant vous, vous prenez tout le bois qui n'a pas servi à faire l'idole, vous faites un feu, vous grillez votre viande, vous mangez, vous buvez, vous faites la fête, puis vous tombez devant l'autre morceau de bois qui est une idole, et vous dites, oh morceau de bois, oh mon idole, oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Et il y a 3 heures, c'est un morceau de bois dans la forêt, et maintenant vous êtes en train de le prier, comme si c'était ce morceau de bois qui était votre Dieu. Non mais, ça n'a pas la tête! Et Dieu dit, mais comment peut-on en arriver là? C'est le mannequin, vous voyez. Il dit, vous avez des idoles d'or, d'argent, de pierre, de bois. Quand vous avez des problèmes, pourquoi vous venez toujours vers moi? Ô Éternel, notre Dieu, sauve-nous, nous avons besoin de toi. On pleure, Seigneur, aide-nous. Mais vous avez des idoles, plein de vos jardins. Allez les prier à vos idoles, puisque vous les aimez tellement. Allez leur prier de vous les délivrer. Pourquoi vous ne les priez pas comme vous êtes dans la panade? Parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas des dieux. Vous m'avez laissé moi pour adorer ces morceaux de bois? Est-ce que vous comprenez les larmes de Dieu? La frustration, mais la stupidité, mais la tragédie de l'idolâtrie. Et le cœur de Dieu est brisé. Et pour montrer un petit peu la souffrance que Dieu éprouve, il a demandé à un de ses prophètes de vivre quelque chose de totalement incroyable. Il a dit à Osée le prophète, tu vas prendre une femme, elle s'appelle Gomer. Alors, on peut penser qu'il aimait Gomer et voulait l'épouser de toute façon. Alors, soit elle était déjà une femme infidèle avant le mariage, mais il est plus probable que Dieu lui dit, tu vas épouser Gomer, elle est fidèle, elle sera fidèle pendant un temps, et elle deviendra infidèle. Elle se prendra des amants. Et Osée a épousé cette femme. Elle lui a donné 3 enfants. Il filait, on peut dire, le parfait bonheur. Une famille bien, normale, prophète de Dieu, son épouse et les 3 enfants. Et puis elle a commencé à devenir, comme on dit, volage. À droite et à gauche. Et à droite et à gauche. Et avec l'un et avec l'autre. Et dans le chapitre 2, Dieu parle à travers Osée en disant, Osée, tu vois ce que tu vis. Est-ce que tu vois la souffrance que tu ressens avec ta chère et tendre épouse qui fait n'importe quoi et la honte que tu éprouves et les gens qui jasent autour de toi et la femme du prophète, elle est un peu légère. Hein? Est-ce que tu vois la souffrance que tu subis dans cette situation? Osée, dis-leur que c'est exactement ce que j'éprouve moi dans leur comportement. Et Dieu dit verset 4, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Verset 7, leur mère s'est prostituée, et celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'était pour de l'argent, mes amis. Elle croyait s'enrichir avec ses hommes. Verset 8, c'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. On a consacré au service de Baal, l'idole, l'argent et l'or que je lui prodiguais. Verset 16. Regarde ce que Dieu propose de faire et ce que Osée a dû faire avec sa femme qui est revenue vers lui. Il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Verset 21, Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Oh, la tendresse de Dieu, la patience, le pardon de Dieu, qui dit de cette femme infidèle, désabusée, perdue, errante, reviens. Reviens vers moi, je t'aime toujours. Et je te resterai fidèle. Et je te redonnerai ce que tu as perdu. Et on ne parlera plus du passé. On ne parlera plus de ce temps de folie. Reviens, je pardonne. Ah mes amis, les larmes de Dieu. Ce que je veux vous dire ce soir, s'il y a un Dieu d'amour et de pardon et de grâce et de tout-puissant, comment peut-il permettre la souffrance? C'est que mes amis, lui aussi souffre. Il souffre parce qu'il a voulu créer des hommes qui puissent choisir de l'aimer. Quelle est votre idée du bonheur? Aller dans un laboratoire, trouver des éprouvettes, fabriquer de la vie chimique, programmer génétiquement, programmer l'intelligence, faire une sorte de robot humanisé, et puis rentrer toutes les données du programme informatique et les mettre dans votre maison. Et à 9h du matin, tous vos nouveaux enfants artificiels arrivent devant vous en ligne et disent « Papa, maman, je t'aime. 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 » 10 fois, clic, et elles s'en vont. À 15h, elles reviennent. « Papa et maman, je veux t'obéir. Papa et maman, je veux t'obéir. Papa, maman. » Est-ce que vous éprouveriez de la joie, du plaisir? Est-ce que votre cœur serait comblé? si vous pouviez arriver à faire des êtres pareils. Dieu aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça. Il dit, c'est pas ça. C'est pas ça la vie. Pour qu'un homme dise, Seigneur, je t'aime, il faut que cet homme puisse dire, Seigneur, je te déteste. Il faut qu'il ait le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Sinon, ce n'est pas un choix, ce n'est donc pas de l'amour. Mais voilà le risque. Le risque, c'est que les gens ne l'aiment pas. Mais on prend le risque. Parce qu'on veut créer quelqu'un avec une grande dignité, une grande valeur. Et c'est ça, mes amis, les larmes de Dieu. Quand les gens se détournent de lui, mais évidemment, quand les gens s'approchent de lui et lui donnent leur cœur et leur vie et leur être, alors rien ne peut approcher ce bonheur. Ça, c'est un bonheur absolu que Dieu éprouve quand les hommes et les femmes viennent vers lui et lui donnent leur vie et il leur fait partager son bonheur. Je peux vous dire que de vivre avec Dieu donne un bonheur absolument indescriptible. Une paix et une joie qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire. Les gens ne pourraient jamais le comprendre. Il n'y a pas de mots pour expliquer la plénitude et la joie et la paix que de marcher en obéissance et dans l'intimité avec celui qui nous a créés. Mes amis, même pour le chrétien, il est possible de faire pleurer Dieu. Quand quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui est sauvé, peut-être plusieurs sont dans ce cas ce soir, vous connaissez Christ comme sauveur, mais qu'on aime le monde. C'est aussi un adultère. De quoi parlons-nous quand nous nous trouvons? De voitures, de football, de télé? De quoi? Est-ce que nous parlons de Dieu? Adultère que vous êtes, dit Jacques. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4. Nous faisons pleurer Dieu quand nous n'aimons pas nos frères. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 30 à 32. Quand on aime et qu'on pardonne et qu'on refuse l'amertume, on fait plaisir à Dieu. Mais quand nous vivons dans ce cadre, dans cette atmosphère, on fait de la peine à Dieu. Quelquefois, les chrétiens pensent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Je n'ai pas vraiment besoin de lire la Bible. Je n'ai pas vraiment besoin de prier. Je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu. Je crois que j'ai assez d'expérience. Je connais assez de choses maintenant pour vivre sans dépendre de Dieu tout le temps. Je peux aussi marcher un peu par moi-même. Mes amis, personne ne peut vivre avec Dieu sans son aide. La vie chrétienne, ce n'est pas que ce soit difficile à vivre, elle est impossible à vivre. Seul Jésus-Christ peut vivre la vie chrétienne. Et il veut la vivre en nous. Il ne veut pas qu'on essaie. Il veut que nous lui livrions nos membres. Et livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Livrons à Dieu nos corps, nos âmes, nos affections. Livrons ces choses. C'est un acte de volonté. C'est pas, ben, je le ferai si un jour j'en ai envie. Non, on n'aura jamais envie. L'idée, c'est de se livrer à Dieu. Et Dieu peut vivre sa vie à travers nous. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie religieuse. Une vie religieuse, c'est l'homme qui essaie d'être le meilleur, de plus en plus bon, pour essayer d'arriver à quelque chose où Dieu pourra dire, tu es arrivé, ça va, je peux t'accepter. Ce n'est pas arriver à la moyenne. Dieu demande la perfection, mais on ne peut pas donner cette perfection. Seul Jésus-Christ peut le faire. Donc, il dit, livrez vos membres et moi je ferai en vous ce que vous ne pouvez pas faire. Et alors là, quand nous vivons de cette manière-là, on réjouit le cœur de Dieu. Tout ceci pour dire que Dieu souffre. Alors nous pensons toujours aux souffrances des hommes, mais Dieu souffre aussi. Il a aussi perdu son fils. Quelqu'un a dit une si belle phrase, Dieu n'avait qu'un seul fils. Eh bien, ce fils est devenu un missionnaire. Il est venu, il a quitté sa terre de prédilection. Il est venu sur une terre étrangère, la planète, ici. Il est venu mourir pour des gens qui se fichaient pas mal de lui et de ce qu'il représentait. Après avoir fait du bien pendant 3 ans, après avoir guéri leurs malades, ressuscité leurs morts, après leur avoir prêché la bonne nouvelle, après avoir pleuré avec eux et pour eux, après s'être occupé d'eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Merci. Non. Crucifie-le! Crucifie-le! Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et je termine avec ce verset merveilleux, Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que c'est vous ce soir? L'avez-vous déjà reçu? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, croire au nom de Jésus-Christ, venant de Dieu pour nous sauver. Il a donné le pouvoir, il a donné l'autorisation, il a donné le droit légal de devenir enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas nés par le sang, ni par la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés de la volonté de leur propre chair. Ils sont nés de Dieu. Dieu les fait naître dans sa famille. Est-ce que vous êtes passé par la nouvelle naissance? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez reçu comme sauveur? Si oui, vous êtes né déjà dans la famille de Dieu par la puissance de Dieu lui-même. Sinon, vous êtes encore en dehors de cette famille. Et vous faites de la peine à votre Créateur. Et à cause de cette peine, vous aussi, vous êtes dans la souffrance. Il n'y a pas de souffrance plus grande que de souffrir cette séparation d'avec Dieu. Je vous invite à vous incliner avec moi un instant dans la prière, une attitude de recueillement, si vous le voulez bien. Je vous invite même à baisser vos têtes, fermer vos yeux, simplement pour nous permettre de réfléchir sans distraction à cette question. Connaissez-vous Jésus-Christ comme sauveur? L'avez-vous jamais reçu dans votre cœur? Lui avez-vous jamais dit, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi, pardonne mes péchés, fais de moi ton enfant, change-moi, fais-moi, mets-moi dans ta famille. Avez-vous jamais prié une prière comme cela? Sinon, ne serait-il pas le moment de le faire? Tournez-vous vers Jésus-Christ, je vous en supplie, si ce n'est déjà fait. Peut-être quelqu'un dira-t-il ce soir dans son cœur, « Eh bien, moi, je n'ai jamais prié une telle prière. Je ne savais pas que je pouvais recevoir Christ si facilement. Mais je voudrais qu'il me sauve, je voudrais qu'il me pardonne. Je voudrais donc l'inviter ce soir dans mon cœur. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais aussi sincère que je puisse être, je veux recevoir Christ et avoir sa vie et le pardon de mes péchés. Je vous invite, si cela est votre désir, de lever votre main et de la baisser. Nul ne la verra, sauf moi. Je prierai pour vous sans mentionner votre nom. Ce n'est pas le but de vous embarrasser. C'est pour vous aider à prendre une position qui vous aidera dans cette décision? Y a-t-il quelqu'un dans ce cas? Par la main levée et baissée, vous montrez, c'est mon désir, je veux recevoir Christ comme mon sauveur. Y a-t-il quelqu'un? Une ou deux personnes, peut-être, trois ou quatre, je ne sais pas. Y a-t-il une seule personne, peut-être c'est vous. Je veux recevoir Christ comme mon sauveur. Il vous aime, il vous sauvera sur le champ. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je suis enfant de Dieu, mais je sais que j'attriste Dieu, j'attriste mon Père, parce que je me trouve ami du monde. Ou bien j'ai pensé que je pouvais vivre avec ma propre force, je sais que c'est une insulte pour mon Dieu. Ou bien j'ai beaucoup de difficultés à aimer mes frères, même j'ai de l'amertume contre certains. Et je sais que ça attriste mon Dieu, je ne veux plus l'attrister, je ne veux plus cette souffrance, Seigneur, aide-moi, je suis ton enfant. Je viens vers toi, aide-moi. Levez votre main et baissez-la, si tel est votre besoin. Dieu vous écoutera, il vous aidera. Y a-t-il quelqu'un, un enfant de Dieu, dans ce cas, que Dieu te bénisse, quelqu'un d'autre. Dieu vous bénisse, quelqu'un d'autre. Oui, encore quelqu'un. Oui, quelqu'un d'autre encore. Oui, oui. Ah oui, Dieu parle à ses enfants. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre avant de prier? Notre Dieu et Père, nous prions pour ces sept personnes qui, par la main levée, ont indiqué leur désir de ne plus te faire la peine. Mais tu sais qu'ils n'ont pas la force de leur désir. Seigneur, permets qu'ils ouvrent leurs yeux, qu'ils tournent leur regard vers Jésus-Christ, qu'ils implorent ton aide et ton secours, qu'ils livrent ce soir leurs membres entre tes mains, que ce soit leurs pensées, leurs autres membres, mains et pieds, pensées, cœur, langue, yeux, que tout te soit livré. Et Seigneur, qu'ils vivent dans cette victoire que tu leur as déjà acquise à la croix du calvaire. Donne, nous te prions, des victoires majeures ce soir. Oui Seigneur, nous ne voulons pas te faire verser des larmes à cause de notre orgueil. Interviens dans ta grâce et nous te louerons et te remercierons par Jésus-Christ. Amen.